On est de retour aux amateurs de sport. On est toujours le 30 décembre 2020. On a eu bien du fun avec les gars de la Poche Bleue. Vous pourrez entendre ça si vous avez manqué un moment. Vous pourrez entendre ça, bien sûr, sur nos plateformes du 98.5 Sport. J'ai tout juste de croiser le boss et on a reçu le communiqué de Zdeno Chara qui confirme que les Bruins lui ont informé qu'il n'avait plus de place pour lui, qu'il allait... pouvait aller explorer d'autres avenues. Donc, Zdeno Chara dit « Je comprends, ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Ça me fait un peu de peine, mais je comprends très bien la situation. » Wow! J'ai hâte de voir le résultat des Bruins. Ils ont besoin de ne pas s'être trompés. Nous, on ne se trompe jamais. On a juste à appeler Ray Lalonde, puis on a l'heure juste. Ray, salut, comment ça va?
Salut, Martin, ça va bien?
Oh, fantastique, fantastique. Mais là, j'ai besoin de toi parce que je ne suis pas sûr que je comprends toutes les conventions collectives de tous les sports majeurs. La MLS voudrait renégocier sa convention collective et utiliser une clause que je ne connais pas qui s'appelle clause de force majeure. Peux-tu m'expliquer?
Bien, ça, c'est une clause qui existe dans la plupart des ligues sportives. C'est-à-dire qu'en cas d'un incident majeur, d'un désastre naturel, d'une pandémie, ça peut être la toiture d'un amphithéâtre qui s'écroule. Ça peut être un feu quelque part. T'sais, ça n'a pas besoin de toucher la ligue au complet. Mais dans tous ces cas-là, les ligues, les équipes ont des assurances risques. Ils sont généralement bien couverts. Ça peut être même pour un événement anodin, un tournoi de tennis, puis une journée de pluie. Et puis là, c'est remis au lendemain, mais les gens doivent être remboursés. Bon, il y a des assurances qui existent pour couvrir tout ça. Et dans le cas d'une convention collective, les éléments qui sont à risque, c'est justement des incontrôlables. Alors, on se protège en incluant dans nos conventions collectives négociées avec l'association des joueurs ce qu'on appelle la force majeure. Et dans ce cas-ci, une pandémie, c'est une force majeure. Et la MLS s'était entendue au début de la saison, qui a repris cet été, pour payer les joueurs 95% de leur salaire, c'est-à-dire une petite réduction de 5%, mais en échange, ils devaient jouer la saison telle qu'elle pouvait se présenter. Puis ils ont commencé avec une bulle à Orlando dans le tournoi qui s'appelait MLS is Back. Mais à la fin de la saison, lorsqu'on a fait le bilan financier, on a réalisé que les revenus ont baissé $1 milliard pour la MLS. La MLS est une ligue qui est en croissance rapide. Tu sais qu'il y a eu beaucoup d'expansion depuis une dizaine d'années. Oui. Et le prix des franchises... au niveau des expansions, Martin, augmente de façon fulgurante. La dernière, Charlotte, écoute, ils ont payé 325 millions US pour une franchise de la MLS. Si tu retournes au Toronto FC, il y a à peu près 10 ans, là, ça avait coûté 10 millions.
Okay.
Alors, ça va vite, c'est de bon augure. Les finances potentielles de la MLS sont très bonnes, sauf que c'est une ligue qui dépend aussi beaucoup des revenus de match, c'est-à-dire les billets vendus au guichet, mais aussi les revenus de concessions alimentaires, les revenus de produits dérivés, les revenus qui sont associés à l'expérience d'un match, qui n'inclut pas les droits de médias, de diffusion, ou les droits de commandite. Mais forcément, c'est une ligue qui est plus fragile financièrement. Donc là, ils réalisent qu'après le bilan de l'année qui vient de se terminer, avec la Coupe MLS remportée par le Crew de Columbus, bien là, ça a été tragique comme résultat. Puis avant d'entreprendre la prochaine saison, parce que, Martin, la prochaine saison, le camp d'entraînement, en principe, devait ouvrir le 21 janvier.
C'est
et la saison...
C'est demain, ça.
Ça, c'est demain, puis ils viennent de terminer. C'est très difficile. Et tu peux-tu imaginer l'impact ou la prochaine identité de cette équipe-là, commencer le 21 janvier pour une saison en début mars, trop tôt... impossible à envisager avec les conditions actuelles de la pandémie. Donc, de ce fait, Don Garber, le commissaire, a décidé que lui, il valait mieux tout de suite réouvrir. Alors, ce que ça veut dire, Martin, c'est qu'il se donne 30 jours pour négocier des modifications. Pas pour scraper la convention collective, pas pour l'éliminer de ce fait, mais il y a une fenêtre de 30 jours qui s'ouvre dès la réception de la lettre du côté de l'Association des joueurs.
La MLS est fait un peu différemment, mettons, que le hockey et le baseball. C'est la MLS, je ne me trompe pas, Rick, qui paie les joueurs. Ce n'est pas les équipes, c'est elles qui génèrent et qui s'occupent des revenus, etc. Est-ce que ça fait une différence versus, exemple, un sport comme le hockey où ça ne change rien dans l'utilisation de cette clause?
C'est une bonne question. Puis le terme, c'est centralisé. C'est une ligue qui est centralisée. Ce qui veut dire que au niveau de tous les revenus, lorsque tu achètes une franchise, tu n'achètes pas vraiment une franchise, tu achètes des parts dans la compagnie qui s'appelle MLS. Alors l'Impact et le Toronto FC, toutes les franchises, sont des participants dans une business où ils ont des actions, des parts. Donc un partenariat total. C'est excellent comme concept pour une ligue en ascension qui a besoin d'une génération complète de 25 ans pour vraiment développer une culture de partisans et de consommateurs aux États-Unis. Parce que le trafic sportif aux États-Unis, Martin, c'est congestionné. Il manque pas de produits sportifs.
Non.
C'est dur pour le hockey, imagine pour le soccer de la MLS. Ils ont des équipes qui vont bien. Seattle Sounders, Atlanta United, LAFC, LA Galaxy. Tu sais, qui peuvent attirer beaucoup de spectateurs. Mais les audiences à la télé sont modestes. Et les revenus de droits médias sont aussi modestes. Donc, ça prend du temps à bâtir ça. Donc, la meilleure façon de le faire, c'était justement d'emmener toutes les équipes dans un partenariat global. Et donc, là-dessus, elle est structurée différemment que la Ligue nationale de hockey, qui est un sport établi depuis plus longtemps et que les propriétaires sont des individus ou des groupes privés qui gèrent ça avec un patron qui s'appelle Gary Bettman.
Est-ce que la Ligue nationale de hockey, les propriétaires, ont menacé les joueurs quand on ne s'attendait pas d'utiliser cette force-là? Est-ce que ça existe pour le hockey?
Ça existe pour le hockey. Ils n'ont pas menacé de l'utiliser.
Pourquoi?
Puis la raison, Martin, je pense que fondamentalement, Gary Bettman et Donald Fear sont beaucoup plus proches qu'on pense. Pas proches, voulant dire amis, là, mais proches collaborateurs. Ils sont engagés pour la même cause. Donald Fear a connu ses joueurs, ses moments, ses années de représentation plus agressive au niveau des joueurs lorsqu'il était au baseball. Depuis qu'il est dans le hockey, honnêtement, il s'est beaucoup assagi. Il a pris une optique plus collaboratrice et harmonieuse avec les joueurs et la ligue et les dirigeants. Et je pense qu'il fait un excellent travail. Puis parmi tous les individus au cours de l'année 2020, Martin, là, je suis obligé de mentionner que Adam Silver et la NBA et Gary Bettman et la Ligue nationale de hockey sont deux des leaders qui ont le mieux représenté leurs produits sportifs en temps de crise. Il faut donner beaucoup de crédit à Bettman et de ce fait, il faut en donner à Donald Fear aussi. Parce que même si la Ligue nationale de hockey est légèrement en retard sur la NBA, ça commence quand même le 13 janvier, malgré la tragédie qui nous perturbe à tous les jours, malgré les difficultés qu'ils vont devoir faire face, ça commence quand même. Alors, ils ne se sont pas servis de cette clause-là, même s'ils dépendent beaucoup des recettes au guichet. Les franchises canadiennes sont des locomotives, sont très solides à part Ottawa. Il y a beaucoup plus d'argent en liquidité qui circule dans le hockey de la Ligue nationale que dans la MLS. À ce niveau-là, le hockey est un peu mieux situé puis il n'avait pas eu besoin d'avoir recours à la clause de force majeure.
OK. Bien, heureusement, parce que là, au moins, on est sûr, comme tu l'as dit, on va avoir du hockey dans quelques jours à peine. Les camps qui vont ouvrir le 3 janvier qui vient avec, pour du côté du Canadien, les tests physiques.
Oui. Ça va être nébuleux, Martin. Tu le sais que ça... Tu sais, on commence, on est tous optimistes, puis on est certainement très heureux de voir le hockey reprendre. Mais tu peux t'attendre à des circonstances difficiles, que ce soit comme le baseball l'a vécu en début d'année, comme la NFL le vit toutes les semaines. Il va en avoir des problèmes dans le hockey. Là. Ça va, c'est surtout avec un calendrier agressif de 56 matchs en peu de temps, d'ici le 8 mai. C'est très exigeant à tous les niveaux. Mais je pense qu'ils ont encore la bonne approche. Et je le répète, depuis le début de la pandémie, il y a 9 mois, là, c'est une question de survie. C'est une question de poursuivre. Ce sont des entreprises, pas pour l'argent, là, mais pour le besoin d'exister quand même, malgré les difficultés. Le sport, c'est comme n'importe quel business. Tu dois trouver une façon de survivre parce que sinon, ferme les portes puis mets la clé dans la porte.
Avant d'aller dans notre autre sujet, tu m'ouvres la porte. Écoute, Ray Tedray pour Canadien de Montréal. Un calendrier de 56 matchs dans une nouvelle division juste pour un an, entièrement canadienne. Commanditaire, c'est casse parce qu'on veut rajouter des revenus. Puis c'est bien normal. On a annoncé du côté du Canadien que ça sera Bell, ce qui fait du sens également. Qu'est-ce qui aurait été tes premiers mandats avec cette division-là canadienne et ses manques de revenus, etc.? Qu'est-ce que le Ray Lalonde du Canadien ou qu'est-ce que le Ray Lalonde de l'époque aurait dû faire? Ça aurait été quoi tes challenges en partant? Parce que tu sais, tu as fait une promotion incroyable de cette équipe-là dans le centenaire, etc. Là.
Mais je pense que le plus gros défi pour les Canadiens, comme toutes les équipes, Martin, c'est de garder les gens engagés. parce que pour le moment, ils ne mettront pas les pieds dans le Centre Bell ou ailleurs. T'sais, les équipes de la NBA ont commencé depuis le 22 décembre. Puis il y a certaines équipes qui accueillent des partisans, ce qui est quand même incroyable. Puis je le dis pas de façon favorable, je le dis plutôt de façon stupéfait. Là,
ouais, je te comprends.
Je suis étonné de voir ça, mais le gouvernement américain puis les 50 États gèrent ça comme ils veulent. C'est différent. Au Canada, c'est peut-être plus uniforme comme approche. Mais tout ce que je peux dire, c'est que un défi aujourd'hui qui est réel, c'est le retour des partisans. C'est d'envisager à quel moment ça va se produire, comment on va les séduire, comment on va les convaincre de revenir malgré les risques, malgré l'incertitude vis-à-vis les vaccins, vis-à-vis un variant du virus, vis-à-vis l'argent discrétionnaire qui reste à dépenser, vis-à-vis la crainte que les gens ont, Martin, de s'engager dans des rassemblements publics. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont fermé leur boutique. C'est difficile, là. C'est pas simple de dire, regarde, on va recommencer à payer les sommes qu'on payait pour des matchs de hockey, que je le localise à Montréal ou ailleurs. C'est la même chose dans tous les sports. Donc, un des défis, ça va être de garder ces gens-là proches du produit via la radio et la télé et les plateformes numériques, mais aussi dans une mentalité, si on veut, si tu me permets l'expression, un mindset qu'on retourne au stade bientôt. Ça, c'est un défi nouveau parce que personne n'a eu à faire face à ça dans le passé.
C'est clair. Puis j'en rajoute juste une petite dernière. Le fait que le Canadien va jouer dans chacun des marchés canadiens où le Canadien a un fan base,
mm-hmm.
ça t'aide-tu, ça, le fait de dire, OK, j'ai le Canadien de Montréal, moi, je fais la promotion de cette équipe-là, puis dans chaque ville que je vais jouer, il y a un fort fan base. Ça t'aide-tu, ça?
C'est sûr que ça aide. Puis la façon dont ça va aider le plus, c'est que les matchs télévisés et sur les streams vidéo et à la radio, sur les plateformes, ben, ils vont avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité. Parce que jouer autant de fois contre les mêmes adversaires, d'abord, ça crée une rivalité certaine. Il va y avoir un peu de haine qui va exister. Il va y avoir un peu de cette bataille, ce combat quotidien. Il n'y aura pas de variante. Tu n'auras pas d'équipe moribonde qui vont se présenter devant toi devant le match, que ce soit les Panthers, les Hurricanes, les Blue Jackets. Des équipes qui sont moins importantes culturellement pour les Canadiens. Je parle des Canadiens du Canada, pas juste des Canadiens de Montréal. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que tu risques d'avoir de bonnes audiences télé cette fois-ci parce que le calendrier est un peu plus libre qu'il ne l'était l'été dernier. Fait que ça, je pense qu'on peut s'attendre à un peu mieux, surtout si on regarde le rassemblement de toutes les audiences, c'est-à-dire justement télé, radio, web, stream. Quand tu cumules tout ça, on appelle ça le « total audience delivery », là. Là, je pense qu'on va avoir des chiffres qui vont être beaucoup plus positifs que ce qu'on a vu l'été, l'automne dernier. Alors, là-dessus, en attendant le retour dans les gradins, on peut quand même s'attendre à une saison palpitante parce qu'ils vont jouer longtemps et souvent contre les mêmes clubs. Ah, ça va créer une rivalité ou deux nouvelles rivalités particulières cette année.
Oui, ça va être super le fun. Écoute, Ray, on prend une petite pause. Au retour, je te demande les moments marquants de la business du sport. Est-ce que c'est les mêmes que le sport en tant que tel? On en parle dans deux petites secondes avec Ray Lalonde. On est de retour aux amateurs de sport en compagnie de l'excellent Ray Lalonde. Ray, avant la pause, je disais, est-ce qu'il y a eu des moments marquants dans le business du sport? Certainement. Mais les moments marquants, businessment parlant, est-ce que c'est la même chose que les moments marquants du sport en général?
C'est une bonne observation, mais la réponse est non.
OK.
La réponse, c'est simplement parce que moi, je regarde toujours un peu d'une façon analytique l'impact, le contexte, la perspective. Pour essayer de décoder, je ne veux pas trop avoir d'opinion, j'essaie juste de regarder qu'est-ce qui affecte un peu le roulement de l'industrie. Certains sports, certaines ligues, certains produits, puis comment ça évolue de semaine en semaine, au jour le jour, si on veut. Puis quand je regarde l'année 2020, Martin, il y a des choses qui sont évidente, là. Mais il y a quelques éléments que je vais probablement te surprendre un peu à savoir pourquoi je pense que c'est un fait marquant de 2020 côté business.
J'ai hâte.
Alors, pour moi, là, la COVID-19, évidemment, l'effet boule de neige créé depuis le 11 mars dernier, la décision de la NBA de suspendre la saison rapidement, Et l'effet que ça a créé partout sur la planète, pour moi, c'est un moment historique. Puis, je te nomme 6, 7, 8 sujets, là, mais ils ne sont pas dans l'ordre nécessairement d'importance, là, sont, puis ni chronologiquement, mais c'est sûr que 2020, c'est coronavirus, c'est le COVID, puis c'est qu'est-ce que ça a chambardé dans toutes nos vies. Puis sur le plan sportif, c'est là qu'on a eu à faire face à quelque chose qu'on n'avait jamais prévu. Il n'y a pas un plan stratégique qui nous avait dit, ben voici ce qu'on fait quand on a une pandémie mondiale. Non, non, personne n'a pensé à ça. D'ailleurs, ça fait 100 ans et plus que ce n'était pas arrivé. Alors ça, c'est le premier point qui doit être mentionné dès le départ, parce que ça a changé la façon dont le sport a eu lieu, ça a changé les événements, ça a reporté des événements, ça a cancellé des événements, puis ça a même fait en sorte qu'on ne l'a pas apprécié autant du côté des performances athlétiques, que même des athlètes qui ont décidé de ne pas participer longtemps. Tu sais, il y a 77 joueurs de la NFL qui n'ont pas joué cette saison à cause de la pandémie, en commençant par Laurent Duvernay-Tardif, bien sûr. Mais, tu sais, je pense...
Parzan à Bill Belichick.
Exactement. Je pense à plein d'athlètes qui ont dit « Nous, on ne joue pas cette année pour toutes les raisons tout à fait légitimes. » Bon. Deuxième événement marquant, là, fait marquant, c'est Black Lives Matter. Comment un mouvement a mobilisé le sport mondial? Comment les athlètes ont utilisé leur influence pour apporter du changement, pour affecter le vote aux élections présidentielles, puis prendre une position publique qui, en même temps, les exposait à la critique et risquait leur réputation puis leurs ententes commerciales. Mais cette année, c'est une année, pas juste un moment puis ça arrête le lendemain, là. Ça a duré des semaines, ça a duré des mois durant le calendrier de la NBA, dans la Ligue nationale de hockey, sur les zones de but dans la NFL, les messages contre l'injustice. Et ça, je donne beaucoup de crédit à Colin Kaepernick, qui, ça date de 2016, mais on voit aujourd'hui l'effet. Lui avait vu juste, personne ne l'a cru, les propriétaires l'ont sacrifié sur la place publique, ils n'ont jamais donné une autre chance de jouer dans la NFL, c'est impardonnable ça. Mais entre-temps, regarde le bien qu'il a causé en prenant cette décision-là en 2016. La Ligue nationale de football, la NFL, a quand même injecté 250 millions de dollars pour des causes sociales. Michael Jordan en a mis 100 millions de sa poche. La NBA et toutes sortes d'autres ligues et athlètes se sont engagés pour communiquer le message, pour en parler ouvertement. Tu as eu des Megan Rapinoe, des Naomi Osaka, tu as toutes sortes d'athlètes sur la planète.
Osaka, elle avait mis... Osaka puis LeBron James, je trouvais que c'était très clair, net et c'était très...
Ben, c'était les deux leaders, Martin.
Ouais.
Absolument. Eux autres, ils sont allés visiblement à tous les jours. Osaka avait un message, le nom d'une victime différente lors de ses 7 matchs au US Open.
Incroyable.
Elle a gagné l'US Open. Elle est allée jusqu'au
bout. C'est une jeune femme, là. C'est pas une personne d'expérience comme LeBron James. On parle d'une jeune femme. Moi, j'ai
Absolument.
Trouvé ça extraordinaire.
Absolument.
Sauf que Ray... Je n'ai parlé l'autre fois, je commence à trouver que c'est de plus en plus écrypté sur le poteau de la zone des buts. J'aimerais ça que ça reste massif pour pas que les gens oublient, parce que tu le sais, on a fait un boom avec ça, puis on va dire, ben c'est passé, c'est fini. Je veux que ça reste.
Martin, c'est un bon point, mais je ne suis pas certain que tu vas gagner ce point-là vis-à-vis les ligues, parce que honnêtement, je sais que les ligues ont souffert beaucoup parce qu'il y a eu une division qui s'est faite aux États-Unis. La NBA a mangé ses bas avec la perte de plusieurs partisans, parce que les gens trouvaient que la Ligue était trop politisée. Puis cette année, on ne reverra pas, d'ailleurs la saison a commencé depuis le 22, mais on ne voit pas de message Black Lives Matter sur le terrain. Est-ce que les joueurs vont changer d'optique? Non. Est-ce que Adam Silver est aussi derrière la cause? Bien sûr que oui, mais c'est parce que la NBA doit aussi protéger son produit, comme la NFL. Mmh. Donc, il va falloir que ces ligues-là trouvent d'autres façons de continuer l'effet communautaire et social. Et ça, c'est important. Je n'ai pas de doute sur leur capacité de le faire. Mais on ne le verra peut-être pas de la façon aussi ouverte qu'on l'a vu en 2020.
Parce que c'est un sujet qui polarise. Qui dit polarise, ça veut dire que ça divise. En politique, c'est bon de diviser. Mais quand tu veux avoir la masse qui regarde ton sport puis tu la divises, c'est moins
payant. Exact. Mon troisième fait marquant, c'est le documentaire de The Last Dance.
Ah, ben oui.
Parce que pour moi, le documentaire de The Last Dance, c'était symbolique à deux endroits précis. D'abord, ça symbolisait l'importance de la télévision à la carte. à la demande. Ça éloignait les gens de la télé traditionnelle, puis ça prouvait à tout le monde qu'une des façons dont on va consommer le sport à l'avenir, ça va être justement sur des Netflix, sur des chaînes spécialisées, sur des chaînes numériques. Et on va le prendre quand on veut, au moment où on veut, à l'endroit où on veut. Et ça, c'est une bataille qui va être dure à gagner ou à résister pour les télés conventionnelles. Alors, outre le succès de Last Dance, le meilleur documentaire sportif de l'histoire de Netflix, demeure une chose, c'est beaucoup plus l'effet sur la consommation qui est évidente.
Oui. Puis quatrième y a une partie point. Aussi, Ray, on le voit dans le documentaire. Elle n'a pas passé sous silence.
Ça s'appelle ton 2 secondes de célébrité dans ta vie, c'était le mien.
Écoute, t'étais dans le documentaire le plus populaire de l'histoire de Netflix, c'est bon.
L'autre sujet, ce sont les bulles. Orlando pour la MLS, Orlando pour la NBA, Toronto-Edmonton pour la Ligue nationale de hockey, Bradenton en Floride pour la WNBA. Écoute, qui aurait pensé que les ligues auraient été capables d'innover si rapidement et avec tellement de contrôle de qualité en offrant le produit pendant une pandémie de façon complètement isolée et avec le succès qu'on a connu? Parce qu'on ne peut pas questionner la qualité du jeu, mais c'était différent et rapidement, on a oublié qu'il n'y avait pas de spectateurs. Rapidement, on a oublié que c'était comme une version de jeu vidéo animé par des humains. Non, mais moi, j'ai trouvé ça invraisemblable. Mais Tampa Bay a gagné la coupe, puis c'est pas une coupe aussi légitime que n'importe quelle coupe Stanley qu'on a vue de notre vie, dans des conditions très difficiles pour les joueurs. Il faut leur rendre hommage. Gary Bettman, Adam Silver, Don Garber méritent tous des félicitations pour avoir pu livrer ça en si peu de temps.
Oui, d'accord avec ça. Puis moi, les fans, ça ne m'a pas dérangé. Numéro 5.
Le report des Jeux olympiques. Ça, c'est parce que ça a un enjeu tellement important en dollars, parce que ça va coûter encore plus cher de reporter à 2021, mais c'est parce que ça questionne si les Jeux olympiques, le mouvement olympique, doit changer ou non. Ça questionne le fait que peut-être qu'on a moins besoin du modèle actuel. Parce que ça coûte trop cher, Martin. C'est pas abordable, c'est pas accessible. C'est même pas à la portée de 95% des grandes métropoles au monde. Faut pas se le cacher, c'est pas pour tout le monde les Jeux olympiques. Et là, le CEO doit se poser de vraies questions à la veille de vouloir reprendre ça en 2021 à Tokyo encore une fois.
La question, moi je vais te la poser tout de suite. Là. Tu peux-tu avoir des Olympiques, pas de fans?
Oui.
Au prix que ça a coûté bâtir ces buildings-là, est-ce que Tokyo peut se rembourser sans spectateurs?
Bien, c'est difficile parce qu'ils ont déjà mis en place l'infrastructure, mais pour l'avenir, après Tokyo, c'est possible, Martin, parce que je pense qu'ultimement, pour avoir été à 2 Jeux olympiques, pour avoir travaillé à un des deux, à Sochi en Russie, je peux te dire honnêtement que c'est un produit télévisuel, c'est un produit qui se met en branle sur les plateformes numériques. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir de grandes foules, de grands rassemblements pour pouvoir permettre aux jeunes athlètes et l'espoir mondial du sport de compétitionner un contre l'autre. Je ne suis pas certain qu'on a besoin de grandes foules pour ça. Okay. Mais ça, c'est le CEO qui devra y réfléchir attentivement.
Le prochain.
Les paris sportifs. Oh. Ça s'en vient au Canada en 2021. Ça va être la première fois, ça va être voté, ça va passer au fédéral. Ça va être la première fois que tu vas pouvoir miser sur un seul match à la fois. Parce que le défi dans le passé, c'était toujours de se dire, écoute, tu mises sur un match, mettons que le match est arrangé, mais là, ça peut tout chambarder au niveau des paris sportifs. Mais non, aux États-Unis actuellement, tu as 18 États qui l'ont autorisé. Ça date de 2018. Puis juste te donner des chiffres de novembre, là, au New Jersey, au mois de novembre seulement, 931 millions de dollars ont été gagés juste dans le mois de novembre. Puis en Pennsylvanie, 491 millions. Puis ça se poursuit. Puis la raison pourquoi je te les souligne, Martin, c'est que à travers ça, tu as une somme de ces revenus-là qui reviennent dans les poches des gouvernements. C'est comme une taxe gratuite. Puis il n'y a rien comme l'argent pour dire au gouvernement, oui, ça c'est une bonne loi, on devrait l'adopter. Puis en plus, les sportifs puis les dirigeants de ligue aiment ça parce que ça garde les gens plus engagés à suivre le produit. Donc, ils vont regarder sur les chaînes numériques ou sur les chaînes télévisées, les matchs. Parce que quand tu gages, tu suis le résultat parce que tu veux savoir s'il y a un pari remporté pour toi ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer la donne au niveau du Canada, comme c'est le cas aux États-Unis depuis un an et demi.
D'ailleurs, une des raisons, selon moi, du succès du football de la NFL, c'est les paris, les FanDuel de ce monde, parce que on regarde pas juste une équipe, on n'est pas juste fan d'une équipe, on regarde le football le dimanche parce qu'on veut voir si nos joueurs ont remporté et performent. Et il y a un documentaire qui a roulé à RDS là-dessus. On parlait des 10 ou 15 moments les plus importants de la NFL et les paris, les pools de football sont parmi les plus grands moments de l'histoire de la NFL.
Mais pour les auditeurs, pour bien comprendre, c'est que c'est pas qu'on gage pas qu'on, pour le football ou dans le football ou sur le football depuis le début là, des temps modernes, c'est qu'on le faisait illégalement. Le seul endroit où tu pouvais gager légalement sur un match, c'était à Vegas, au Nevada. Dans les autres États aux États-Unis, il fallait toujours que tu y ailles avec, on appelle ça le parlay. Ça veut dire un minimum de deux événements ensemble pour être sûr qu'on évite, justement, qu'il y ait de l'illégalité. Mais là, depuis que c'est permis au niveau fédéral, avec les paramètres de sécurité, c'est là que l'argent va aller. Pourquoi laisser l'argent quitter les poches légales? Pourquoi laisser l'argent quitter le pays puis aller hors frontières? Gardons ça au Canada. C'est ça qui s'en vient en 2021.
Est-ce que tu m'as dit 7-8? T'en avais-tu un huitième ou
on arrive? Il m'en reste deux, puis je vais y faire très rapidement.
Garde-toi.
Numéro 7, l'investissement en sport et technologie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas de façon précise parce que c'est un peu aléatoire. Mais il y a eu 22 milliards de dollars US d'investis en 2020 sur ce qu'on appelle des Special Purpose Acquisition Company, des SPAC. Puis ces SPAC-là, ce sont des investissements dans l'infrastructure technologique du sport qui va faire en sorte qu'on va continuellement voir la technologie infiltrer le sport de façon positive pour améliorer l'expérience de consommation. Ça s'en vient en 2021. Puis le dernier, les audiences télé à la baisse.
Oh oui, ça,
la Ligue nationale de hockey a vu la Coupe Stanley, Martin, être en baisse en audience de 61%. La NBA, 51%. Le baseball majeur, les séries mondiales, Rays contre Dodgers, la plus petite écoute de l'histoire des séries mondiales.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop d'options, c'est pas les mêmes heures, plus de minutes regardées, mais pas assez longtemps. Pourquoi? Parce qu'on travaille de la maison. Fait qu'on passe notre temps à se promener pour quelques minutes seulement, puis on décroche, on s'en va ailleurs. Puis quand notre journée de travail est finie, on reste pas à la maison pour regarder du sport, on va prendre l'air dehors. Donc, finalement, on a changé notre façon de consommer. Et ce changement-là, Martin, à mon avis, c'est pas que les codes d'écoute ne reviendront pas, mais ce changement-là dans notre façon de vivre et de consommer, c'est permanent.
J'ai hâte de voir. Moi, ça m'inquiète beaucoup, les codes d'écoute. Les gens ont trouvé peut-être d'autres passions ou ont vu qu'ils étaient capables de vivre sans leur, en guillemets, addiction, mettons, pour regarder du hockey. J'ai hâte de voir ça. Puis en plus, que nos habitudes de hockey vont changer, Ray, parce que le Canadien va jouer beaucoup plus de matchs à des heures différentes. Je voulais te garder cette question-là pour la toute fin. Le Canadien, peux-tu avoir fait une demande à la Ligue nationale de hockey de dire on est un gros marché, si on joue la moitié de nos matchs à 21h, 22h, ça va faire mal, pas juste à nous autres, mais tu sais, on a des fans à Vancouver. Moi, j'ai resté à Whistler. Je te le dis, là, on sortait du ski à 4h. À 4h15, on était au bar en train de regarder les matchs du Canadien. Puis seulement à 7h, on regardait les matchs des Canucks.
Oui. C'est une excellente question. Je pense pas que ça arrive, par exemple, pour la simple raison que les gens en Colombie-Britannique et les Canucks et leurs fans à eux, ben ils vont vouloir d'abord avoir la priorité. Mais c'est vrai qu'une grande portion de la population en Amérique du Nord se situe sur la côte est américaine et canadienne. Ce qui fait en sorte que dans le fuseau horaire, il y a plus de gens qui préféraient un match à 19h qu'à 22h, bien sûr. Mais je pense pas que ça a été aussi loin dans la planification, étant donné les obstacles qui se sont dressés devant eux depuis tellement de semaines.
Les délais, puis écoute, il y avait tellement de décisions à prendre, eux autres. On va-tu avoir plus de matchs, tu penses, en après-midi? J'ai pas scruté les fins de semaine. Est-ce que tu penses qu'on aura plus d'après-midi?
Oui, je pense qu'ils n'auront pas le choix de condenser tout ça parce qu'on va manquer de journée, Martin. Puis surtout, si jamais il y avait des annulations ou des reports de matchs, imagine ce que ça peut créer. Mais je pense que tout le monde est prêt parce qu'on a déjà plus d'expérience qu'on avait l'an dernier à pareille date.
C'est clair. Ray Lalonde, un énorme merci. Je sais que tu es un collaborateur régulier un peu partout à l'antenne du 98.5 et 98.5 Sport. Je te souhaite énormément de santé, une belle année, puis on se reparle l'an prochain.
Toi aussi, Martin. Merci beaucoup. À bientôt.
Bye-bye. C'était Ray Lalonde. Tantôt, je vous en ai parlé. J'ai une entrevue qui s'en vient dans quelques instants qui va être pas mal de fun. Je vous en parle dans quelques instants. Également, Stéphane Leroux, Jérémy Floza et Bruno Eppel s'amènent.